Bonjour tout le monde, c'est Eden et Miranda de Bookworms Pod. Aujourd'hui, nous terminons notre série politique avec une discussion sur le livre présenté par Lauren Bastit qui a été publié en 2020.
Oui, c'est super. Et si tu ne connaissais pas Lauren Bastit, elle a beaucoup des social media, elle est sur l'internet partout. Puis en plus, elle a un podcast super bon, La Poudre.
Oui, c'est hyper intéressant à écouter en anglais ou en français. Elle a des appuis seuls dans les deux langues. Mais par contre, ce roman, c'est magnifique. J'aime bien ce bouquin. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois maintenant. Et chaque fois que j'en tire quelque chose de nouveau. C'est impressionnant, le livre.
Oui.
C'est quoi tes premières impressions, Miranda?
Ben, pour moi, je trouve qu'il y a deux choses. Un, c'est qu'il y a un point de vue. Puis moi, j'adore ça. C'est un livre qui explique le point de vue de Laurent.
Mm-hmm.
Elle donne des chiffres, mais en plus, elle donne un point de vue clair. Elle vient de la gauche. elle parle beaucoup de ouais. Les politiques extrême droite.
Ouais, elle cache pas.
Non,
elle cache pas du tout.
Pas du tout. Et deuxièmement, mm-hmm. j'adore le format parce que c'est comme elle explique à un ami ses idées. C'est pas exactement une livre normale ou fluide, c'est juste comme une conversation. Et des fois, elle dit, OK, là, je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres qui j'ai perdu. Il y a des moments où elle dit, OK, je comprends que maintenant, c'est possible que tu n'aimes pas mon avis. Mais écoute, c'est pourquoi je pense ça. Donc, j'adore ça parce que c'était comme elle part avec des personnes qui c'est possible que t'as pas la même avis, mais elle essaie d'expliquer.
Mm-hmm.
Donc j'adore ça.
Oui, oui. Alors avant d'aller trop loin, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
Aujourd'hui, je bois un Chablis de Bourgogne en préparation de mes voyages qui viennent.
Oui, est-ce que ça c'est un petit indice là?
Oui, on va y aller à les Côtes de Bonne, puis avoir le vin de Bourgogne. Puis je vais essayer un vin blanc de Bourgogne. Puis un Chablis est super bon.
J'aime bien le Chablis aussi. Mais moi par contre, j'ai une rosée, il fait beau. Il fait toujours frais, mais il y a le soleil et on est décidé qu'on boit de rosé pour la première fois cette année.
Oui.
Donc voilà, j'ai un petit rosé de Pays d'Oc.
Oh oui, un rosé, parfait. Donc, ce livre, comme j'ai dit, c'est un format très différent. Je trouve que c'est bien formulé pour nous de parler les trois sections du livre. Donc, elle a une introduction que je pensais super. Elle a une voix qui, c'est juste vraiment clair.
Je pense que c'est parce que elle est une journaliste.
Ben,
c'est
j'imagine.
Elle est une journaliste, donc avec ça, c'est précise sa façon d'expliquer et présenter le fait et aussi les choses qu'elle va faire dans le livre.
Oui. Mais elle a chapitre 1, présente dans la ville, puis elle a chapitre 2, présente dans les médias. Et chapitre 3 présente en résistance.
Ouais, je pense que c'est mieux à dire, franchement, c'est des parties. Parce qu'à 10 chapitres, c'est comme ça qu'elle divise son livre, mais en vrai, c'est des parties.
Mais oui, c'est des trois sections. Puis c'est super intéressant. J'ai beaucoup à dire de chacun, mais pour moi, j'ai trouvé le premier présent dans la ville. Et le plus fort, comme je comprends pourquoi elle a commencé avec ça, parce que c'est facile à comprendre, oui. C'est intéressant, c'est toutes des choses que des femmes sont déjà habituées à dans la vie. Mais je trouve que
oui,
ouais, voilà.
Non, pour moi c'est pareil. Oui, le livre c'est pour les femmes, c'est quelle place pour les femmes, mais aussi. Je pense que c'est aussi les autres populations défavorisées, les autres populations racisées.
Oui.
Elle parle de l'intersexualité dans son livre et elle montre aussi comment c'est pas que les femmes, c'est vraiment la lutte pour les autres groupes de population qui ont le même souci. Donc pour moi, la vie, c'était le plus choquant parce que c'est la chose qu'on voit quotidiennement. dans la vie. C'est, le, c'est l'expérience que, oui, que la femme vit chaque jour. Oui. Et c'est la petite chose jusqu'à la grande chose.
Oui.
Donc, c'est la façon qu'on balade dans le trottoir jusqu'à la façon qu'on utilise l'espace public.
Oui.
Et c'est vraiment la conversation que nous avons discutée avant ce livre et aussi que j'ai discuté avec pas mal de femmes parce que c'est vraiment des contraintes qui existent depuis toujours.
Puis le truc que je pense que la raison que c'est choquant, même que c'est quotidien, elle vous donne des chiffres pour voir que oui, c'est vrai. Comme la première page, elles disent 81% d'entre elles ont été subies par leur vie comme d'être harcelées ou agressées sexuellement dans la rue. Ouais. Puis en plus, elle a dit le pourcentage d'utilisatrices du métro parisien qui ont été harcelées ou agressées sexuellement dans ces REM, 100%. Je trouve ça, c'est choquant, mais en même temps, j'ai vu ça. Ben, je tournais à mon chum et je dis, ben, je pense que je ne connais pas une femme qui n'a pas eu une expérience d'harcèlement ou d'agression sexuelle. Ben, je connais aucune. C'est fantastique comment elle fait ça parce que c'est des chiffres, mais en même temps, c'est une expérience que tu sais dans toi-même, tu l'as déjà eue.
Et je pense que c'est aussi un truc, ça peut être pour les femmes ou pour les hommes, parce que je pense que les statistiques, les données numériques aident les hommes à comprendre à quel niveau c'est un problème. Et en même temps, c'est important aussi pour les femmes, parce que je pense pas qu'on est sensibilisé de comprendre qu'on a eu des expériences. Par exemple, quand j'avais 11 ans, et des mecs, quand des voitures commencent à crier contre moi et commencent de dire des choses sur mon corps, c'est pas quelque chose à 11 ans que tu comprends que on fait pas ça. J'étais sexualisée.
Oui.
Tu vois, ça, c'est quelque... j'avais peur, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, avec l'histoire qu'elle présente, avec des expériences ou des exemples, on commence à comprendre combien de fois que ça se passe.
Oui.
Combien de fois j'étais dans une station de train et j'ai essayé d'éviter. On a discuté, j'ai dit, j'avais mes écouteurs, je ne regarde pas les gens, je change mon comportement dans l'espace public pour éviter les choses. Et entre mes amis masculins qui présentent comme hommes, c'est vrai que de temps en temps, ils ne comprennent pas. Parce que de temps en temps, j'utilise le langage hyper fort.
Oui.
Pour dire, arrête. Non, c'est pas OK, stop, arrête, dégage, j'ai vu, j'ai pas besoin d'aide. Il dit, oh, sois poli. Excuse-moi, j'étais poli. Et maintenant, il est déjà traversé.
Oui, bien sûr.
J'ai pas besoin qu'il me touche. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin, laisse-moi. Et c'est vraiment des choses comme ça qu'elle vise dans son chapitre, oui. Là.
Puis aussi, je trouve le fait que tu viens de dire, c'est que, ben, sois poli. OK, mais il y a des situations où j'étais poli, puis rien n'est changé. Oui. OK, ben, ça, poli ne fonctionne pas tout le temps. Ben, il y a des fois que des personnes disent des choses, puis si tu sois poli, ils sont OK, bye. Mais il y a beaucoup des autres fois où j'étais vraiment poli, puis il arrête pas. Comme l'harcèlement continue.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est comme, OK, ben, sois poli, ça fonctionne pas pour moi. Tu vas comprendre que je suis pas à l'aise. Mais écoute, il y en a beaucoup des choses dans ce chapitre. En plus, elle parle de l'harcèlement, comme tu dis, raciste aussi. Et l'harcèlement qui est pas juste des femmes, mais des femmes musulmanes et des femmes noires et...
Ouais. Encore, c'est l'intersectionnalité, c'est ça.
Et j'adore qu'elle est si brave ici de parler de laïcité. Comme nous avons dit plein des fois sur ce podcast, c'est un sujet super difficile. Puis elle dit, comme j'ai déjà, elle a eu une situation, ici, ben, une page ici où elle a dit, écoute, selon un rapport contre l'islamophobie en France, 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Et pourquoi? C'est parce que c'est des femmes qui sont voilées. Et elle dit...
C'est visible.
Oui. Et elle dit, C'est le moment voile de ce livre, le moment où un parti d'entre vous risque de grommeler « Ah non, là, je suis pas d'accord! » Puis j'adore ça un peu parce que c'est vrai que c'est un sujet hyper difficile en France. Et, ouais. Mais j'adore la façon d'elle expliquer, ok, ben il y a des conversations sur laïcité. Et en vrai, il y a une femme voilée qui est harcelée dans la rue. Est-ce que c'est acceptable? Non, bien sûr non. Puis c'est ça, c'est ouais. Comme elle prend toutes des discussions académiques et polémiques, puis elle dit, elle le prend. Ok, il y a une femme sur la rue qui est harcelée. Ça, ce n'est pas mm-hmm. acceptable. Puis j'adore ça. Je trouve que c'est super efficace, là.
Ouais, et pour rester sur le même sujet, j'aime bien comment elle a augmenté son argument. Comme tu disais, elle est vraiment technique avec ça. Elle veut dire, ok, mm-hmm. ça c'est un exemple 1, ça c'est point 1, on va continuer. Et elle dit que c'est même pas juste les femmes. C'est aussi tous les services qui aident, par exemple, en février de 2019, les magasins Decathlon, qui est un magasin hyper connu en France,
oui.
Et ils vendent les choses sportives. Et alors, Decathlon propose une hijab de running pour les femmes musulmanes portant le voile qui soit déposé d'un vêtement capable de leur fournir un certain confort dans leur pratique sportive. Donc voilà, est-ce que les femmes ont le droit de faire de running? Oui, elles ont le droit. Est-ce qu'elles ont le droit de porter les vêtements qu'ils veulent pour leur activité sportive? Oui. Mais la France a dit non. Parce qu'en gros,
oui.
Même si ce n'était pas que les femmes concernées, Decathlon, comme un magasin, a reçu des soucis. Donc, sous la pression, les distributeurs décident de renoncer à commercialiser ce vêtement pour assurer l'intégrité et la sécurité de ses équipes. Parce que les équipes de Decathlon ont eu des soucis. De sécurité. Et c'est n'importe quoi. Donc, c'est les femmes, les gens qui travaillent Decathlon et même le magasin Decathlon.
Ben oui. Et je trouve en plus, juste sur ce paragraphe, je l'ai remarqué aussi, c'était un bon exemple de exactement ce qu'on vient de dire. Mais en plus, j'adore le résumé qu'elle dit. Les femmes doivent choisir soit porter le voile, soit courir. J'adore ça. Waouh, j'adore ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on parle de quoi exactement? On parle de le choix. Le choix de porter la voile ou le choix d'être athlétique. Moi, je le trouve, je choisis pas d'être athlétique, mais en même temps, c'est comme, ok, mais c'est un choix. Comme, quand on parle de ces choses, c'est pas toujours à propos de une discussion académique, c'est à propos des personnes en vrai.
Alors, on a déjà touché un peu le sujet pendant l'épisode avec Lindsay Tremuta et le Nouveau Parisien, mais on a parlé du fait qu'il y a des femmes musulmanes qui veulent s'intégrer dans la société française, qui veulent être la mère, qui arrivent pour la sortie scolaire, mais en même temps, c'est impossible à faire. Et ça, c'est vraiment triste parce que Laurent Bastide parle également d'une expérience d'une mère musulmane portant le voile qui accompagne son enfant à une sortie scolaire. Donc, c'était le Rassemblement national, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et en gros, l'élu a dit elle ne peut pas être là si elle porte le voile. Donc, elle n'avait pas le droit d'être dans un espace public dans la ville. Elle est une citoyenne, mais elle n'a pas le droit d'accéder en tant que citoyenne, d'accompagner son fils à une sortie scolaire pour voir les systèmes de la République. Et pour moi, ça, c'est fou.
Oui.
Mais ça, c'est un bon exemple de comment elle ne peut pas gagner. Parce que si elle ne fait pas, tout le monde va dire, « Oh, voilà, c'est notre femme musulmane qui n'accepte pas la République française, qui ne fait pas les choses normales, qui refuse d'accompagner son fils à la sortie scolaire, qui refuse de s'intégrer.
»
En même temps, quand elle fait, elle est aussi humiliée devant tout le monde, humiliée devant son fils. Elle est partie en pleurant.
Oui.
Et c'est n'importe quoi. Elle ne peut pas gagner. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Oui. Ben oui. Et je trouve que comme tu dis, la difficulté entre d'intégrer ou soit accepter, je pense que ça, c'est une conversation difficile. Et en France, je trouve que c'est vraiment difficile avec la laïcité. Mais je trouve que, comme, il y a des façons d'intégrer des gens, mais aussi d'avoir des accommodations, ou pas accommodations, mais comme d'intégrer aussi leur culture et d'aider des gens de comprendre la culture où ils habitent. Par exemple, au Canada, on a le samedi soir, on a Hockey Night in Canada. C'est le soir où tu peux voir hockey sur la chaîne, la chaîne nationale.
Oui, la chaîne publique, oui, oui.
Oui, je pense qu'il y a 5 ans ou peut-être 10 ans, ils ont créé une chaîne pour la chaîne publique, aussi une diffusion Punjabi. Parce qu'il y a si beaucoup des immigrants qui viennent du Pakistan ou de l'Inde, qui part Punjab, mais qui adore hockey. Il y a une partie de la culture qui est Hockey Night in Canada. On va avoir une diffusion, mais aussi il y a des gens qui parlent plus en Punjab qu'en anglais. Mais je trouve que ça, c'est super. C'est comme juste d'avoir plus des personnes dans ce monde. On partage la culture, mais on dit, ok, c'est pas comme, il faut savoir l'anglais pour avoir Hockey Night in Canada. Moi, je trouve que c'est stupide, ça. Je déteste ça et je trouve que c'est comme il y a une façon d'intégrer dans une façon, mais aussi de ouvrir la France, le Canada, le pays, d'être plus diverse avec la population qui vient.
Bon, on a parlé beaucoup de le premier chapitre parce que, comme on a dit, c'était vraiment choquant. Je vais juste terminer avec un point qu'on n'est pas encore abordé. Elle a discuté aussi comme le bien n'est pas pensé pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que ça, c'est un autre sujet qui est hyper important parce qu'aux États-Unis, ça, c'est aussi un problème. On a des bâtiments qui construisent chaque année et c'est possible de facilement adapter les bâtiments pour les personnes en situation de handicap. Mais en France, on a un autre problème. On parle des anciens bâtiments, on parle de patrimoine et tout ça. Mais on a besoin de trouver une façon pour chaque personne d'avoir accès. Parce que avec ce livre, ça m'a aidé à ouvrir mes yeux un peu. Parce que chaque fois que je prends le métro parisien, je dis, c'est pas possible. C'est quatre étages d'escalier. On est deux marches partout. Le train, les portes ouvrent même avant le train arrête, tu vois, on est des soucis, on est par des ascenseurs, on est par des aides. Comment les gens peuvent habiter à Paris en situation de handicap? Facilement. Et ils ont le même droit que nous d'avoir le service public, d'avoir la transportation publique, d'avoir l'accès, d'être en ville. Et c'était un peu choquant parce que, pareil, chaque fois on va dans un bâtiment public, est-ce qu'il y a des marches? Oui. Est-ce qu'il y a des accès pour les personnes en situation de handicap? Non. Et c'est absolument... C'est un truc de ouf. Je trouve ça pas supportable. On a besoin de créer des espaces publics accessibles pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça mon point.
aussi, c'est un lien avec la nouvelle parisienne parce qu'elle parle aussi de ça.
C'est la même femme, en fait. Laurent et Lindsay a parlé avec la même femme, la même avocate.
Oui, et il y a beaucoup de liens entre ces livres aussi parce que Laurent utilise Rokhaya Diallo beaucoup dans ce livre, beaucoup des fois. Elle est citée. Oui, il y a beaucoup de liens. Je trouve que les deux textes essaient de faire la même chose. Mais en tout cas, on continue avec la chapitre 2, présente dans les médias.
J'ai beaucoup de choses à dire.
Vas-y.
Donc pour moi, le plus choquant, c'était la statistique. Comme on a déjà discuté un petit peu, là, elle parlait de choses qui ont passé pendant le premier confinement, parce que le livre date de 2020. Alors le statistique, c'est un peu âgé à ce point, peut-être ça a amélioré. Peut-être pas. Elle pose des questions. Combien de femmes politiques ont pris la parole sur le plateau de télévision et à la radio pendant la première période de confinement qu'a traversé la France au printemps 2020. Et la réponse, c'est choquant. Les femmes politiques n'ont représenté que 25% des invités politiques dans les médias pendant cette période, contre 30% en temps normal. Donc ça a dit, pendant une crise, les médias ont décidé de baisser le pourcentage de femmes qui parlent.
Oui.
Pourquoi? Pourquoi?
Oui, je trouve que c'est fou. Ce chiffre m'a choquée aussi. Mais ça aussi m'a fait demander une question que est-ce que je vois vraiment une égalité qui n'est pas là? Par exemple, si on voit une émission de télé ou le média, mm-hmm. comme tu dis, une émission de télé, est-ce qu'on voit l'égalité quand il y a juste une femme qui est là?
Oui, mais c'est ça. Elle aborde le sujet là aussi et je trouve hyper intéressant parce qu'elle parle de le fait qu'il y a 40% de femmes pendant l'après-midi. Mais en prime time, il y a beaucoup moins. Parce que
oui.
c'est ça aussi. Quel type de mission? Quel type oui. de sujet? C'est pas pareil. Et les femmes ont le droit de faire des choses sur le trivia, sur les questions, les jeux, oui. les sujets simples, pas trop difficiles. Mais le moment, quand on parle des choses concrètes, difficiles, politiques, et c'est un peu ça que Rocaio parle souvent. Elle n'est pas invitée comme experte.
Oui.
Elle est une experte politique, mais est-ce qu'elle est invitée? Et Laurent Bastide, c'est pareil. Elle dit, OK, dans la même période, les femmes expertes représentent 19% des expertes interrogées dans les médias. 19%.
Oui.
Et récemment, pendant mon expérience professionnelle, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation dans ce sujet-là. Et c'était vraiment intéressant. C'était un réseau social pour les femmes de présenter comme expertes. Et comme ça, les médias peuvent voir combien d'expertes sont disponibles et utiliser nos CV, nos expériences pour nous inviter d'exprimer sur les plateaux. Mais c'est fou parce que une partie... C'est le fait que ça passe pas. Une partie, c'est le fait qu'on n'ait pas la reconnaissance. On ne sait pas que les réseaux comme ça existent. Donc, c'est bien que j'ai eu l'opportunité d'avoir cette formation. Il y a plein de choses sur les deux côtés. Il faut sensibiliser les gens, il faut avoir la formation. Mais en même temps, le média doit commencer à prendre les femmes qui existent. Et il y a plein d'expertes qui sont disponibles.
Oui, aussi, je trouve qu'elle utilise des exemples aussi de, OK, quand il y a une égalité avec des femmes, est-ce que les personnes écoutent les avis qu'elles donnent? C'est une autre chose, comme elle utilise l'exemple de Hillary Clinton et Donald Trump et le débat de 2016. Mais c'est ça qu'on est comme, OK, même si on voit des femmes dans une position à prime time, comme aux mêmes égalités avec des hommes, est-ce qu'on écoute? Mm-hmm. Est-ce que les avis qu'elles donnent sont bien compris, bien pris, bien acceptés comme légitimes? Puis ça, c'est une autre chose en plus, comme c'est juste d'être là est difficile, mais en plus, quand t'es là, est-ce que t'es écouté? Ouais.
C'est ça. Et aussi, elle a parlé de le problème en journalisme, parce qu'il y a aussi le souci là, que même pas écouté, est-ce que les femmes ont le droit d'écrire sur le sujet où ils sont impliqués? Par exemple, elle parle d'Alice Coffin, qui est une journaliste lesbienne et politique, et elle a parlé du fait qu'elle n'avait pas le droit d'écrire sur les choses qui concernent les femmes, qui concernent la communauté LGBT. Et ça s'est vu. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que son éditeur a dit « Tu es biaisé, tu n'es pas hors de la situation. » Mais maintenant, combien de fois les hommes écrivent les choses pour les hommes? Et pourquoi un homme blanc a le droit d'écrire des choses sur la femme gay? C'est n'importe quoi.
Ou ou les hommes blancs qui écrivent sur le problème de racisme. Hein? Écoute, t'es pas hors de la situation, là.
Et, mais l'auteur dit, elle explique et ça, c'est un problème, là, parce que c'est pas vrai.
Oui. Puis je trouve ça, c'est difficile parce que... Ben, pas juste difficile, mais elle explique vraiment bien. Mm-hmm. Comme, je pense que c'est tout au début. Je vais le lire. M'excuse, Laurent, on vient de lire tout le livre ici, mais c'est juste si bien. Ben, elle explique comme... Vous entendez ce bruit, c'est des dents qui grincent. Les vôtres, peut-être. Enfin, voyons, non. Une journaliste se doit d'être neutre. Non partisan. Mais plus tard, elle explique comme pourquoi c'est pas vraiment possible. T'es une personne avec des avis, avec un point de vue. Puis elle explique, écrire un article, c'est toujours d'emblée faire des choix. C'est décider de parler d'une chose plutôt qu'une autre. C'est un point de vue. J'adore ça. Je trouve ça super intéressant et super important de dire comme, OK, ben, faut être neutre. Mais OK, mais c'est pas possible d'être neutre.
Mais comme tu viens de dire,
dans toutes les situations.
Comme tu viens de dire, comment un homme blanc peut être neutre quand il écrit un article sur le racisme systémique? Il est un parti, il est impliqué, juste comme un homme noir.
Il n'est pas neutre.
Non, mais c'est ça, mais on a l'impression. C'est ça, même pas, on a l'impression. Les éditeurs, les directions, les gens qui ont le pouvoir nous disent « Mais c'est comme ça. Ça, c'est la neutralité. »
Ben oui.
Mais c'est à nous à dire « Non, mais c'est pas le neutre. C'est pas la neutralité, ça. » Et...
Mais non.
Voilà. Donc...
Et en plus, c'est comme... Il y a aussi une différence de neutralité et de... d'une personne qui comprend la situation et une personne qui comprend pas la situation. C'est comme à dire, je suis pas neutre sur la France. Non, je ne suis pas neutre. Mais je comprends plus à propos de la France qu'un homme ou une femme qui n'a jamais vu les Français en vrai ou n'a jamais voyagé en France ou habité là-bas ou travaillé là-bas. Bien sûr, je suis pas neutre, mais je suis aussi plus... j'ai plus de connaissances sur le sujet. Donc, je trouve que c'est juste pas... Cette idée d'avoir un journaliste neutre, ben, il faut avoir des journalistes qui voient la situation en total, en grand, là. Mais je veux pas que les journalistes n'aient pas un point de vue. Je pense qu'il y a des personnes... Ils ont toutes des points de vue.
Oui, et c'est bien de lire plusieurs de points de vue. C'est un peu ça que je cherche quand je lis le journalisme, quand je trouve les articles. Je veux avoir des points de vue différents et comme ça, je peux créer mon point de vue. C'est un peu l'expérience.
Mais oui. Et toutes les faits sont... C'est pas des choses concrètes qu'il y a pas... Comme, il y a des contextes de toutes les choses. Comme, juste à dire, par exemple, dans la première chapitre, ben, il y a des égalités dans les rues pour les femmes et les hommes. Ben, ça, c'est un fait. Oui, légalement, il y a une égalité. Mais en vrai, c'est pas la réalité. Donc, même des faits, c'est comme, OK, c'est neutre. Mais c'est pas neutre parce qu'on n'a pas le contexte pour comprendre le problème en général.
Donc voilà.
Ben, chapitre 3 commence avec, ça s'appelle un petit rappel des faits. Puis elle vient de parler de les femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou un ex-conjoint. Et moi, je trouve que ce type de parler des femmes dans les rues, les femmes dans les médias, puis encore, la conclusion d'avoir OK, et la réalité, c'est que c'est vraiment dangereux, le monde, pour les femmes.
Ouais, le féminicide, c'est un gros souci en France. Et depuis le confinement, donc, comme je disais, les chiffres dans le livre sont un peu datés à ce point, mais le féminicide, ça restait un gros souci pendant le confinement. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires des femmes tuées par... une conjointe, une ex-conjointe, et c'est vraiment triste. Ils ont...
Ah oui.
elles ont pas d'aide pendant le confinement, elles ont pas réussi de sortir de la situation et c'était vraiment choquant. Et aussi l'histoire de personnelle de Laurent Bastide me choquait aussi. Et je pense pas que je vais parler de ça sur le podcast, je pensais mieux si tout le monde lit le livre pour comprendre et pour avoir l'expérience eux-mêmes de découvrir, mais c'est impressionnant comment ça touche plusieurs personnes. Et c'est pas comme on dit, chacun peut avoir une expérience de rassurement ou d'expérience négative. C'est choquant combien de personnes vivent avec une expérience fatale, une expérience d'être battue. Et juste beaucoup de femmes qui partagent par des histoires. Et pour ça, c'est important
Oui.
aussi d'être reconnaissante de ça aussi, de comprendre que même si elle dit pas, ça dit pas qu'elle n'ait pas vécu quelque chose.
Mais oui, bien sûr.
Donc voilà.
Oui. Mais j'ai pas grand-chose à dire dans le troisième chapitre parce que je l'ai trouvé que ça part pour le même, eux-mêmes. Comme c'est bien créé, c'est bien écrit et j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est juste, c'est parfait pour finir le livre avec ces chiffres et la réalité dangereuse. C'est vraiment, il y a une réalité concrète qui est juste devant.
Oui, et aussi, elle touche un peu le sujet, par exemple, de IVG, les droits des lesbiennes, les droits pour les femmes d'avoir des enfants sans un homme. Elle parle aussi de hashtag MeToo, hashtag balance les
Oui.
porcs. Et aussi des choses qui ne changent pas, comme comment le système n'accepte pas le change, comment les Césars ou les Oscars, ou les systèmes qui ont le pouvoir de dire non, qui fait que des gestes artificiels et qui continue à donner des prix à des gens qui ont fait beaucoup de mal. Et ça c'est une conversation un
Oui.
peu toujours à avoir, même en 2022. Je comprends pas comment des systèmes comme ça peuvent continuer. Parce que fais pas des gestes artificiels dans ce cas-là. Fais pas un geste que tout le monde porte la nuit pour supporter le hashtag MeToo en même temps que le même établissement met en scène un homme et qui donne un prix à ce homme qui a fait un viol violemment et qui est publiquement connu à faire.
Oui.
Excuse-moi, mais comment il a du sens là?
Oui, bien sûr. Et juste pour finir, j'ai deux autres choses. Juste pour tout le livre, hein, elle a des faits partout et elle a des références à de tous les autres livres que tu peux lire, tous les autres podcasts, des personnes à suivre sur Twitter, sur Instagram. Elle a beaucoup des faits, mais c'est juste comme si tu veux, si tu en veux plus, il y en a beaucoup
Oui, elle a tous les
plus.
sources dans les annexes.
J'adore ça.
Moi aussi.
Oui, et j'adore ça. Et deuxièmement, j'adorais la façon qu'elle parlait des choses en France, parce que pour une personne qui habite pas dans la France, en France, c'est comme une petite histoire de toutes les petites choses et ça donne des exemples clairs et des moments qui, j'imagine, à l'époque étaient. Tout le monde parle de ça, c'est comme super important et polémique. Et je trouve que pour des personnes qui aiment la France ou qui veulent savoir plus, c'est comme une petite histoire de toutes les petites choses qui sont arrivées ou des petites discussions. Et tout ça, c'est comme la culture. J'adore ça. C'est comme j'étais là.
Oui, et grâce à elle, j'ai trouvé des autres livres. Donc, grâce à elle, j'ai trouvé Alice Coffin. J'ai lu son livre qui s'appelle Le génie lesbienne. Et je conseille à lire. C'était vraiment intéressant. C'est un peu le même style. Et aussi, j'ai des livres que j'ai pas encore lus, comme Annie Ernaux. J'ai vraiment envie de lire ces livres et un film qui vient de sortir. Mais la raison que on ait décidé de terminer notre série politique sur la France première en français et aussi avec ce livre, c'est parce que c'est un appel d'action. C'est un appel
Oui.
à continuer à lutter, à continuer à regarder les choses qu'on doit faire. Et parler de Macron et les choses que Macron a dit pendant sa campagne de 2017 et la réalité avec les choses qui a passé par rapport à la femme. Le budget est diminué, pas augmenté. Et elle est aussi parlé du fait qu'il a lancé une campagne avec la femme pour supporter la femme à prendre le bureau, à essayer la vie politique. Et au final, il a décidé de nommer un homme dans la position d'un ministre qui était accusé de viol. Et il n'est pas vraiment faire toutes les choses qu'il a promis. Donc, je ne dis pas ça comme une raison d'être contre Macron, mais c'était un peu la chose qu'elle est politisée. Ce livre est politisé. Et j'ai trouvé que c'était bien,
oui.
même si c'est vraiment à gauche, de critiquer et de voir les choses qui passent dans la vie actuelle.
Oui.
Parce qu'on a parlé de l'histoire de la France, des politiques. Et moi, comme Américain, j'ai dit, ouais, il fait beaucoup de choses bien. Il fait beaucoup de choses mieux. Le fait qu'il vote dimanche. Le fait qu'il a un endroit à voter chaque 100 mètres, tu vois. On ne fait pas une tente de 3 heures juste pour voter. On ne ferme pas. On essaie d'avoir les gens qui votent. Ce livre m'a aidé à voir que la France n'est pas parfaite. Il y a du travail à faire.
Oui.
Et ça m'a aidé aussi à voir comment on peut le faire. En quelle façon,
oui.
les voix que je veux écouter plus, les voix qui, comme Rakayo Diallo et son podcast également, Kif Taras avec
oui.
Grace, j'aime bien parce que c'est les conversations que je veux avoir, c'est les conversations que je veux écouter et les choses que je veux apprendre. Donc pour terminer, pour moi,
oui.
je pense que ce livre c'est incroyable. Et j'aime bien comment elle a dit plusieurs fois les femmes et les autres personnes défavorisées méritent à vivre, à circuler, étudier et travailler en paix.
Oui.
Et c'est vrai.
Oui. Oui, bien sûr. Ben, j'ai rien à ajouter, c'est parfait. C'est exactement ça, c'est un appel d'action. J'adore ça. Merci.
Ouais, merci pour écouter nos séries. On a quelques épisodes de plus cette saison et on est hâte de partager quelque chose de nouveau. Ça va changer complètement le thème. Donc, continuez
oui.
à suivre et voilà. C'est tout.
Bah oui.
À la prochaine. À bientôt.